Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or live from our studio. Popo Vichot targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Our show includes French lessons, news, reports from across the continent every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM. Our email address, pot.pourri@sympatico.ca.
Les 24 heures du roman. Une aventure littéraire et ferroviaire présentée par Écriture en Mouvement dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de la présence francophone en Ontario. Écriture en aventure avec 24 écrivains dans un train de vie à rail. Ensemble, ils écriront, certains diront que c'est en lisant qu'on devient liseur. De Halifax, Montréal et Toronto, le 400e en Ontario, un parcours de mots. Les 24 heures du roman, un voyage hors du temps. Le 23 octobre 2015, 24 écrivains, incluant des franco-ontariens, acadiens, québécois et amérindiens, ensemble, ils vont explorer l'histoire tout en découvrant une histoire à plusieurs voix. Tout au long de 2015, sur les traces de Samuel de Champlain en Ontario. Les 24 heures du roman, une expérience à la croisée de plusieurs cultures. L'écriture en mouvement, un concept inédit. Les 24 heures du roman, en partenariat avec l'Association des auteurs de l'Ontario français, VRI, le Consulat général de France à Toronto, Popo Vichot, CIT 89,5 FM. Les voyages en train chez VRI offrent une occasion unique de découvrir l'histoire, la nature et la culture et de se reconnaître mutuellement. N'attendez plus, inscrivez-vous, participez à nos jeux concours et qui sait, vous courez la chance d'être à la fête. Pour tout savoir, pot.pourri@sympatico.ca. Bonne chance et bon voyage.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
Adra ben la cosa, ding et dong.
Non, ding et
dong. Écoutez la planète chanter.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Bienvenue mesdames, messieurs à Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde sur CUT 89,5 FM, la radio du campus universitaire de Toronto. Pour nous joindre tout au long de l'émission, www.popourrishow.com ou encore pot.pourri@sympatico.ca ou au téléphone 416-946-7000, facebook.com/popourrishow. L'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. En ce dimanche 18 janvier 2015, où que vous soyez, on vous souhaite le bonjour en direct de Toronto. Séisme en Haïti 5 ans plus tard. Comment CUTFM se souvient-il de cette tragédie? Notre invité aujourd'hui, Fougère Adolphe, président de la Maison d'Haïti du Grand Toronto et coordonnateur de la communauté haïtienne unie de l'Ontario. Aujourd'hui, 5 ans après la reconstruction promise, aussi bien par la communauté internationale que la classe politique en Haïti, eh ben, tout est loin d'être terminé. Le manque de logement reste flagrant. Du coup, les Haïtiens sont contraints de prendre leur mal en patience. Un reportage à Port-au-Prince avec Armélie Baron de RFI. Toujours séisme en Haïti. Ce séisme a-t-il eu un impact sur la vie des expatriés de l'île? France, Belgique, Afrique, Toronto, Montréal, collaboration, magazine Vivre ailleurs de RFI. Littérature, 5 ans après le séisme en Haïti, l'écrivain français Laurent Godet, prix Goncourt en 2004, vous vous souvenez, il vient de publier un roman en hommage aux victimes et aux Haïtiens, son titre « Danser les ombres » aux éditions Actes Sud. Catherine Fruchon-Toussaint l'a rencontré pour nous, on aura peut-être l'occasion de les entendre. Côté théâtre à Toronto, Une vie pour deux, La chair et autres fragments de l'amour de la grande Evelyne de la Chenelière. La pièce présentée par le Théâtre français de Toronto jouera au Buckley Street Theatre du 21 au 25 janvier seulement. Une vie pour deux qui raconte l'histoire d'un couple qui part en vacances au bord de la mer d'Irlande et qui tente de faire le point sur 20 ans de vie commune. Notre invité aujourd'hui, nul autre que la grande Evelyne de la Chenelière, auteur récipiendaire du prix du gouverneur général, et les billets pour vous sont ici et vous attendent, madame, monsieur. Vous nous appelez tout au long de l'émission à pot.pourri@simpatico.ca ou encore 416-946-7000. Et puis dans la deuxième heure, Couleur tropicale avec Claudie Sia nous entraîne dans l'actualité des musiques afrobeat of the best of 20 ans, Nash et Top One, Frisson et l'agenda des concerts et des sorties d'albums à travers la planète. Et attentat à Paris, je vous rappelle, il y a 2 semaines bientôt, pour un réarmement intellectuel. C'est un article très intéressant dans le journal Le Point de ce matin qui nous présente des idées pour panser les plaies. La France doit d'abord les panser, nous dit-on, sans angélisme ni radicalisme, mais avec lucidité et ouverture d'esprit. On en fait le point si on a le temps. Le dernier numéro de Charlie Hebdo va être réimprimé, tenez-vous bien, pour 7 millions d'exemplaires. La vente s'étalera sur plusieurs semaines. Voilà, voilà, si vous avez des réactions avec les grands points de l'actualité, que ce soit à Toronto, à travers le Canada, à Montréal ou encore à travers le monde ou en France, vous nous envoyez un message à pot.pourri@simpatico.ca. Si vous souhaitez envoyer vos chansons ou encore vos communiqués concernant les événements communautaires ou musico-culturels qui se déroulent sur votre territoire, maintenant et jusqu'à la Journée internationale de la francophonie au mois de mars 2015, toujours la même adresse, pot.pourri@simpatico.ca. Toute l'équipe de la radio Popourri Show CUT FM vous souhaite une bonne émission.
Les ténèbres roulent même à flat pour y croire avant de partir.
Sous les gravats, Haïti.
Restez fiers, la tête haute, le temps des flammes, le temps des martyrs.
Ce qu'on a vu et ressenti est loin d'être une fiction. J'ai tellement de choses à dire, mais l'heure est à la reconstruction.
Ils ont besoin de nous, de vous, foncez au bal. Pour les aider à ne plus avoir mal.
Tiens, les rêves, pas mollis.
L'espoir passe au carreau, le monde se lève. Pour qu'Haïti chérie se relève.
Haïti, tu as tremblé, mais tu as toujours été digne. Montre-nous encore la foi, l'ouverture de sa lune.
Et oui, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, Haïti était frappé par un terrible séisme. En très peu de temps, des centaines de maisons ont été démolies et des villes entières ravagées. Bilan 250 000 morts, plus d'1 200 000 Haïtiens qui ont tout perdu. Aujourd'hui, 5 ans après la reconstruction promise aussi bien par la communauté internationale que la classe politique, est loin d'être terminée. Le manque de logement reste flagrant. Il y a eu des commémorations un peu partout à travers le pays, y compris une très belle cérémonie œcuménique à Montréal cette semaine. Et vous vous souvenez, madame, monsieur, ici, grâce à Radio France Internationale, nos partenaires en Haïti, en France, à Montréal et à Toronto, on avait monter plusieurs opérations, émissions spéciales pour cerner un peu ce problème, ce désastre historique en Haïti avec les Haïtiens d'ici. Mais sont-ils heureux de voir, malgré l'aide internationale, malgré plusieurs bras qui se sont offerts, des fois même bénévolement, nous savons qu'il y a des équipes qui sont liées à cette émission, qui se sont rendues immédiatement sur place, pour aider les Haïtiens, les sinistrés. Mais sommes-nous vraiment heureux de voir les réalisations, les progrès réalisés depuis 5 ans déjà? Nous allons en parler aujourd'hui avec un invité. Il est le coordonnateur de la Maison d'Haïti ici à Toronto, Adolphe Fougère, dans la deuxième demi-heure. Mais pour tout de suite, je vous invite d'aller rencontrer notre collaboratrice Amélie Baron. Un reportage en direct Port-au-Prince, et nous remercions la collaboration de Radio France Internationale Paris.
Le journal était présenté par Sonia Ghezali. Merci à vous. À Paris, il est 14h10 et on vous retrouve. Edmond Sadaka, bonjour Edmond.
Bonjour Thomas, bonjour à tous et bienvenue pour ces 20 minutes d'information consacrées à l'actualité d'Haïti et des Amériques. Au sommaire aujourd'hui, 5 ans, cela fait tout juste 5 ans qu'Haïti était dévasté par un séisme qui a fait au moins 250 000 morts et détruit la capitale. On va retrouver Amélie Baron, notre correspondante à Port-au-Prince, et nous verrons que 5 ans après, la reconstruction promise est loin d'être terminée, car le manque de logements reste flagrant. Toujours en Haïti, sur le plan politique, cette fois, ce lundi 12 janvier pourrait être un jour crucial. Les mandats de l'ensemble des députés et du deuxième tiers des sénateurs arrivent à expiration. Faute d'élections tenues à temps, le pays risque un vide du pouvoir. On appellera notre envoyé spécial Stéphanie Schuller. Et bien sûr, on va parcourir la presse américaine en votre compagnie, Harim Lipold. Bonjour Harim.
Bonjour Edmond, bonjour à tous.
Et on va voir qu'une large place est accordée à cet anniversaire du séisme en Haïti, mais aussi beaucoup de commentaires sur l'actualité française et l'immense mobilisation après les journées de terreur la semaine dernière à Paris et dans sa région. Et nous retrouvons nos amis, bien sûr, du journal d'Outre-mer Première. Benoît Ferrand nous dira que, comme ce fut le cas à Paris hier, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Martiniquais sont descendus dans la rue ce week-end pour dire non au terrorisme. Il y a 5 ans, jour pour jour, Haïti était frappé par un terrible séisme. En très peu de temps, des centaines de maisons ont été démolies, des villes entières ravagées. Bilan 250 000 morts au moins, plus d'1 200 000 Haïtiens qui ont tout perdu. 5 ans après le drame, aujourd'hui, la reconstruction promise aussi bien par la communauté internationale que par la classe politique. Cette reconstruction est loin d'être terminée. Le manque de logements reste flagrant et du coup, les Haïtiens sont contraints de prendre leur mal en patience. Écoutez ce reportage à Port-au-Prince d'Amélie Baron.
En seulement 35 secondes, plus de 250 000 bâtiments se sont effondrés. Des tonnes de béton et de fer qui ont enseveli des hommes, des femmes et des enfants. Les survivants, eux, se sont réfugiés sur les places publiques et tous les terrains disponibles. Fabien Sambucci de l'OIM rappelle l'ampleur de ce drame.
Du jour au lendemain, ça devient le chaos, puisqu'on voit les camps qui sont l'aspect, émergé de la catastrophe. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que toutes les structures étatiques qui étaient supposées être celles qui répondent, ont elles aussi été touchées. Donc le principal challenge du séisme, ça a été un choc autant psychologique qu'institutionnel que physique sur les populations, plus ensuite avoir à organiser une aide massive venant de l'étranger, essayer de tout mettre en place pour faire en sorte qu'on puisse justement aider les personnes déplacées.
60 000 sinistrés avaient trouvé refuge sur le terrain de golf de Port-au-Prince. C'est sur ce camp que l'acteur américain Sean Penn avait décidé de concentrer l'aide de son ONG. Avec l'arrivée de la saison des pluies, les familles menacées par les inondations avaient été déplacées à l'extérieur de la ville dans des abris provisoires construits pour durer 3 ans. Mais aujourd'hui, Nancy Bazin vit toujours avec son mari et leurs 5 enfants dans la cabane de 20 mètres carrés au mur de contreplaqué.
Tout était sous club là.
On s'est installé sur le col du club, sous une bâche plastique tenue par 4 bouts de bois. Après, ils nous ont mis ici à corail. On ne peut pas partir car on n'a nulle part d'autre où aller. Quand il pleut, l'eau s'infiltre dans l'abri car le bois a commencé à pourrir. L'OIM est passé, ils ont fait un recensement et c'est tout.
L'Organisation internationale des migrations, qui a coordonné le déplacement de ces familles, sait que la situation doit être améliorée. Fabien Sambucci est le gestionnaire des camps pour l'OIM.
Le site de Corail a été mettre des gens à l'abri avec une solution qui était une solution qu'on appelle temporaire, transitoire. La solution qui était transitoire il y a 4 ans devient une solution problématique aujourd'hui. Donc je dirais qu'on a pu gagner du temps avec les camps tels que Corail, les camps qu'on appelle nous anti-shelter. Et je dirais que maintenant, il faut mettre fin à la transition si on veut vraiment mettre fin aux déplacements liés au séisme.
Mais l'argent manque pour reloger décemment les victimes du séisme et l'urgence première pour la communauté humanitaire reste les plus de 75 000 personnes qui depuis 5 ans survivent dans des camps informels. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Revue de presse des Amériques.
Et comme promis, nous retrouvons donc Harim Leipold à la une des journaux. Harim, nous le disions, ce cinquième anniversaire du séisme qui a ravagé Haïti.
Oui, pour évoquer cette catastrophe et ses conséquences, le quotidien canadien Le Devoir donne la parole à un poète, le québéco-haïtien Rodney Saint-Éloi. Selon lui, il y a eu un avant et un après séisme. L'avant fait d'un sentiment de désespoir envers Haïti, envers les hommes et les femmes, par les politiciens, l'environnement, la méchanceté humaine, la destruction. Après le séisme, raconte-t-il, est néanmoins l'idée qu'on peut rallumer la lumière, qu'on peut passer d'une violence extrême à un combat plus doux. Aussi dévastateur fut-il, le séisme a été l'occasion d'un ressaisissement, d'un sursaut qui peut contribuer à ce qu'il appelle, dans son langage poétique bien à lui, une remontée en humanité. La reconstruction du pays est toujours en cours, constate pour sa part le Miami Herald en faisant état de quelques avancées. De nouvelles routes et hôtels ont été construits, le système de santé s'est amélioré et le nombre de personnes vivant dans des abris de fortune a fortement diminué, écrit le Miami Herald. Malheureusement, poursuit le quotidien, la vie politique, elle, n'a pas changé, elle reste toujours aussi contrariante. À la veille du cinquième anniversaire du séisme, les politiques haïtiens tente d'éviter une crise profonde.
Et puis, Michel Martelly, le président haïtien, peut désormais compter à rime sur le soutien des Américains.
Oui, selon le site Haïti Libre, les États-Unis sont aux côtés du président, même en cas d'échec de l'accord tripartite signé en décembre dernier. Cet accord prévoit entre autres la prolongation du mandat du Parlement jusqu'en avril 2015 pour les députés et jusqu'en septembre pour les sénateurs.
Harim Leipold, on va vous retrouver dans quelques minutes, Harim, pour aborder les autres sujets qui sont à la une de votre revue de la presse. Mais on va rester en Haïti quelques instants, car ce 12 janvier 2015, vous y faisiez allusion à l'instant à plusieurs titres. C'est une date importante pour les Haïtiens, outre l'anniversaire du séisme. Cette journée sur le plan politique pourrait avoir de lourdes conséquences. Dans quelques heures vont arriver à terme les mandats de l'ensemble des députés du deuxième tiers des sénateurs. Faute d'élections tenues à temps, le pays risque un vide du pouvoir. Hier dimanche, le chef de l'État a signé un accord avec plusieurs partis politiques, un accord présenté comme, je cite, une sortie durable de crise. Alors que faut-il penser de ce document? Que va-t-il se passer dans les prochaines heures? On fait le point avec vous tout de suite, Stéphanie Schuller, vous êtes notre envoyée spéciale en Haïti. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Edmond, bonjour à tous.
Alors tout d'abord Stéphanie, rappelez-nous peut-être l'actuel contexte politique, le blocage en fait ne date pas d'hier.
Oui, cela fait des années Edmond en fait qu'Haïti est enlisé dans une grave crise politique. Depuis son arrivée au pouvoir en mai 2011, le président n'a convoqué aucune élection. Résultat, Haïti n'a plus de maire aujourd'hui et n'a plus que 20 sénateurs sur 30 en poste. Et aujourd'hui, le 12 janvier, à 23h59, les mandats de 10 de ces sénateurs et de l'ensemble des députés arrivent également à leur terme. Ce qui veut dire en clair qu'à partir de demain, Haïti n'a plus de parlement si aucun compromis de dernière minute n'est trouvé.
Alors pour éviter ce scénario catastrophe et sous la pression de la communauté internationale, le président Martelly a fait plusieurs concessions à l'opposition, Stéphanie.
Oui, le Premier ministre Laurent Lamothe, pourtant un proche de Michel Martelly, et l'ensemble de son gouvernement ont démissionné. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a également donné sa démission, tout comme les 9 membres du Conseil électoral provisoire, des départs exigés par l'opposition. Le président propose aussi de prolonger le mandat des parlementaires au-delà du 12 janvier. En contrepartie, le chef d'État demande aux parlementaires de voter la loi électorale pour pouvoir organiser les élections en retard. Michel Martelly souhaite aussi que son choix du nouveau Premier ministre, Evans Paul, soit ratifié par le Parlement. Seulement voilà, jusqu'à ce week-end, 6 sénateurs s'opposaient farouchement au vote.
C'est donc dans ce cadre que Michel Martelly annonçait hier la signature d'un nouvel accord.
Cette fois, le président n'a même plus négocié avec les parlementaires, mais directement avec certains partis politiques. C'est avec eux qu'il a signé ce nouvel accord, un document qui a pour principal objectif la formation d'un nouveau conseil électoral provisoire. Mais aucun parti signataire ne représente les 6 sénateurs de l'opposition. Lors d'une conférence de presse, Michel Martelly a rappelé que les parlementaires avaient encore la possibilité de voter d'ici ce soir la loi électorale et ainsi assurer la continuité de leur mandat. Devant l'urgence, le président a même convoqué une séance extraordinaire du Parlement hier soir encore. Et surprise, cette fois, 2 des 6 sénateurs de l'opposition se sont présentés. Mais la séance n'a tout de même pas pu se tenir. Cette fois, ce sont les sénateurs favorables au président qui n'ont pas daigné venir. Une nouvelle séance est donc prévue pour ce matin. De manière générale, on a l'impression que le président haïtien prépare déjà la gouvernance du pays sans l'existence d'un pouvoir législatif, comme le montre l'accord conclu sans les parlementaires et l'absence des sénateurs pro-Martelly lors de la séance de hier soir. Le chef d'État est d'ailleurs réconforté dans ce choix par les États-Unis. Dans un communiqué de soutien sans équivoque, l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince fait savoir que Washington continuera à travailler avec Michel Martelly, y compris si celui-ci devrait légiférer par décret pour organiser les élections. L'implication grandissante des États-Unis dans les affaires politiques haïtiennes s'illustre également par la présence, sans invitation, de l'ambassadeur des États-Unis, Pamela White, hier soir au Parlement.
Alors Stéphanie, au vu de cette échéance cruciale, quelle est l'ambiance ce matin, puisqu'il est 8h20 du matin pour Port-au-Prince, quelle est l'ambiance chez vous en ce moment ?
Pour l'instant, je dirais que c'est un calme précaire qui règne ici, un peu comme si le pays retenait son souffle. Ce qui est avant tout palpable, c'est l'inquiétude de la population, l'inquiétude d'une nouvelle ère d'instabilité qui menace le pays et qui empêche Haïti d'enfin s'engager sur la voie du développement, Edmond.
Merci Stéphanie Schuller. Je rappelle que vous êtes notre envoyée spéciale à Port-au-Prince.
Port-au-Prince. 89.3 FM.
Il est 14h21 à Paris. On retrouve comme promis Harim Lippold pour la suite de la revue de la presse consacrée cette fois à Harim au rassemblement gigantesque qui ont marqué la journée d'hier. Cette mobilisation en France, elle fait la une des journaux aux États-Unis et ailleurs d'ailleurs.
Paris se transforme en capitale mondiale de lutte contre le terrorisme, titre au Globo. Selon le journal brésilien, la France a connu hier une mobilisation sans précédent. Jamais les potaches de Charlie Hebdo n'auraient imaginé faire descendre dans les rues plus de 3 millions de personnes, écrit pour sa part le journal québécois Le Devoir. 4 jours à peine après la tuerie de Charlie Hebdo et 2 jours après la prise d'otage dans une épicerie juive, une marée humaine sans précédent a submergé la France d'est en ouest et du nord au sud. Aucune ville ni aucun village ne semble avoir échappé à cette mobilisation historique digne de la libération. Et le devoir de conclure, ni après le 11 septembre, ni après les attentats de Madrid, on avait assisté à une telle mobilisation.
La presse relève surtout l'émotion très palpable dans les rues de Paris et dans d'autres villes françaises.
En ce dimanche, beaucoup de larmes ont coulé, raconte le journal vénézuélien El Universal, des larmes qui témoignent d'une France endeuillée après les attaques sanglantes de la semaine dernière. Mais les manifestants montraient aussi une certaine détermination à ne pas céder face à l'intolérance et au fondamentalisme. Et El Universal de citer quelques slogans entendus hier, comme par exemple « Je suis français et je n'ai pas peur » ou encore « Que l'encre coule et pas le sang ». United in outrage, unis dans l'indignation, titre pour sa part le New York Times. Il est important que la première réponse à ces attentats, avant toute réflexion politique ou sécuritaire, ait été de se réunir dans un grand rassemblement pour montrer sa colère et sa solidarité. Rien qu'en descendant massivement dans la rue, les manifestants ont fait savoir leur conviction partagée par tous. Charlie Hebdo exerce un droit fondamental en démocratie, celui de la liberté d'expression. Alors ce message a été véhiculé par les chrétiens, athées, juifs et musulmans, renchérit le Washington Post. Malgré cette manifestation d'unité et de solidarité, les attaques terroristes ont provoqué aussi une certaine malaise, poursuit le journal, citant les déclarations du ministre de la Justice américaine Eric Holder. L'idée qu'un loup solitaire puisse commettre des attentats aux États-Unis me fait passer de nuit blanche. Le Washington Post relève aussi l'appel des autorités israéliennes qui somment les Juifs d'Europe de fuir l'antisémitisme.
D'autres journaux américains notent un absent de marque parmi les chefs d'État et de gouvernement qui ont défilé à Paris hier. Cet absent, c'est le président américain.
Oui, Barack Obama n'est pas Charlie, écrit le site d'information Politico en français. Au moins, il ne l'était pas ce week-end, précise-t-il. La décision du président de ne pas venir à Paris suscite des critiques. C'était pas un problème d'agenda, car il n'avait rien prévu ce week-end, note Politico, en évoquant un éventuel risque de sécurité. Les services secrets, explique ce site, ne laissent pas marcher le président à l'air libre dans les endroits où ils n'ont pas passé eux-mêmes, qui n'ont pas passé eux-mêmes au peigne fin. Quoi qu'il en soit, pour le tabloïd new-yorkais Daily News, l'absence de Barack Obama et de tout haut responsable du gouvernement américain à la marche républicaine hier à Paris est tout simplement shameful, honteuse.
Merci, c'était la revue de la presse des Amériques. Elle a été signée Harim Lipold.
Le journal de l'Outre-mer.
Il est présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Edmond.
Comme à Paris, comme partout en France et dans le monde également, des Guadeloupéens, Guyanais et Martiniquais sont descendus dans la rue ce week-end.
Oui, plusieurs milliers de personnes, par exemple, dans les rues de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et une forte émotion lorsque Francine a pris la parole. Francine est une ancienne salariée de Charlie Hebdo. Elle y a travaillé 17 ans au service des abonnements. Francine est revenue en Guadeloupe il y a un an, et elle était là hier, bien sûr, dans les rues de Pointe-à-Pitre.
Pour moi, ils sont encore en vie. Pour moi, c'est, je sais pas, je dis c'est un rêve, c'est pas vrai, je vais me réveiller. Ils vont être encore là, c'est pas possible. C'était une famille, ils étaient heureux d'aller travailler, on n'allait jamais travailler en reculant, parce qu'ils étaient tout le temps là à nous accueillir. On se tutoyait tous, on s'embrassait tous les matins, on prenait le café ensemble, on allait tous déjeuner ensemble. C'était vraiment une famille, j'aimais beaucoup travailler avec eux.
Des milliers de personnes en Guadeloupe, à Saint-Denis de la Réunion, 3000 à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit la moitié de la population, et 2 à 300 personnes seulement, peut-être 400 samedi matin, dans les rues de Cayenne. Pourquoi une aussi faible mobilisation? La réponse de David Richer, le maire de Roura, président de l'Association des maires de Guyane.
Cayenne, c'est même la Guyane, c'est pas Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est quand même des grands territoires, et c'est vrai que tout se réunir sur Cayenne, il y en a qui doivent faire plus de 100 km. Pour venir ici à Cayenne. Donc non, je pense que, pardonnez-moi, le week-end a été long, je pense que quand même c'était une belle mobilisation, et je pense que vraiment c'est ce qu'il faut retenir de cette tragédie, hein, malgré tout, c'est cette mobilisation de la France qui est maintenant debout. Hein, certains faisaient le parallèle par rapport à la Coupe du Monde, c'est vrai que depuis la Coupe du Monde, on n'a jamais senti ce bon vivre ensemble qu'on a ressenti encore hier derrière notre poste de télé dans les rues de Cayenne. Donc voilà, retenir au moins cet essentiel, et voilà, la France est debout pour vraiment défendre nos libertés, hein, cette liberté d'expression. Donc à Cayenne 300, mais je pense que c'est quand même bien.
Autre commémoration en Martinique, le meurtre le 11 janvier 1934 du journaliste André Aliker, un journaliste mort pour avoir dénoncé des malversations. L'événement a pris évidemment une connotation particulière cette année. Écoutez Jeanne Clément de la commission culture de la mairie de Casse-Pilote. Elle a peint un tableau symbolisant les deux événements.
André Aliker, c'était un journaliste qui a été lâchement assassiné. Et là encore, les terroristes, ils ont frappé à Charlie Hebdo. Il y a les deux crayons, puisque il y a eu des dessinateurs, des caricaturistes qui sont morts. Donc les deux crayons, au bout de la mine de ces crayons, j'ai mis une petite flamme. Donc ça représente pour moi une flamme d'espoir. Et puis aussi, je dis, nous sommes Aliker, mais nous sommes aussi Charlie, nous sommes aussi Clarissa, notre Martinique qui est tombée sous les balles. Toutes ces personnes-là méritent de ne pas tomber, disons, dans l'oubli.
Ce sera la conclusion. Bon après-midi, à demain.
Merci.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
J'ai des amis javanais.
J'avoue, j'en ai bavé parfois.
là, juste là.
J'ai des amis au Sénégal.
Du côté de Loumoy.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, à voir.
J'ai des amis dans les villes.
Anti-goût de miel, anti-goût de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Alors, bonjour.
Tant que la terre sera ronde, j'irai où?
Ici.
Tour du monde.
Là-bas.
Voir d'autres êtres humains.
Ailleurs.
Et plus loin.
RFI.
RFI.
On en fait tout un monde. Right here, right now, every day. CIUT 89.5. The sound of your city.
Haïti, 5 ans après. Où en sommes-nous? CUT 89,5 FM vous donne rendez-vous à cette émission spéciale avec ses partenaires.
Haïti, si ouais, je t'aime vini, c'est si j'ai aucun choisi, c'est parce que m'a souffri. Si vous voyez qui est mélodie, qui vous attendez au gentil, c'est comme ça que je sentis. Moi là, des bons chéris, ma pégaté ou capté pas fini. Moi pas qu'à même utile. Chagrin, tristesse, mais ta crémant, pour y'a fin à la vie. Alors, prends pli pour m'écrire. Pour m'en dire pardon, m'en dire pardon pour coup à calotte, femme, yo babou. Pardonnez yo tichou,
pardonnez.
Ton radou yo chiré pour kayou yo maltraité. Yo fait ça sans penser. Mwen ta rele, rele mwen ki laske pratande. Pou vin delivre. Se sel de toi ti mwen kapote sou yon ti bout papye. Pou m'dir ke mwen désolé. Kwe mwen désolé se vre. Yon ti chante ou Haïti, ou m'dim senti sa senti. Yon ti chante ou Haïti, ou m'dim avec li. Yon ti chante ou Haïti, ou m'dim senti sa senti. Yon ti chante. Haïti, pour dire ma fête.
Émission spéciale, 5 ans plus tard, séisme en Haïti. Dans quelques minutes, nous allons accueillir notre invité Fougère Adolphe de la région de Toronto. Il est président de la Maison d'Haïti du Grand Toronto et coordonnateur de la communauté haïtienne unie de l'Ontario. Ne partez pas. Et pour tout de suite, voyons voir ce qui se passe chez nos amis collaborateurs du journal Express de Toronto. Environ 600 Français et francophiles de Toronto se sont rassemblés dimanche dernier, 11 janvier, juste après l'émission. D'ailleurs, merci à tous ceux et celles. C'était nombreux à nous envoyer des tweets, mais aussi des messages sur Facebook. Et en direct à la radio, il y avait le directeur du département d'études françaises de l'Université de Toronto, Pascal, et Daniel, professeur à l'Université l'Université de Toronto. Merci à tous ceux et celles qui étaient là pour nous aider à monter cette émission, nos correspondants à travers le monde, le docteur Eli Bouaoui, professeur ici à l'Université York, et tant d'autres encore en France. Alors, merci beaucoup. Donc, ils étaient nombreux, peut-être 500, 600, d'après certaines estimations, avec des drapeaux tricolores, bougies, crayons, tout ça pour manifester leur solidarité avec la France et affirmer leur attachement. C'était bien sûr devant l'hôtel de ville de Toronto dimanche dernier. Et puis, je vous rappelle que tout ça, bien sûr, à la suite de ces attentats islamistes lancés le 7 janvier par la fusillade au journal satirique Charlie Hebdo. On n'oublie pas non plus la communauté juive qui a été aussi atteinte à travers ces attentats. Je vous rappelle que le Rassemblement Torontois a été organisé par une page à Facebook créée le matin même par Florent Guérard, c'est-à-dire le mercredi 7 janvier, qui a aussi organisé la manifestation de dimanche dernier avec Sophie Perceval et Marjorie Roulman. Toujours dans le journal Express de Toronto, il y a une nouveauté, l'association des juristes d'expression française de l'Ontario. On nous dit que Madame Martel a été nommée au poste de directrice générale de cette association. Elle assurait l'intérim de ce poste depuis juin dernier suite au départ du maître Daniel Menton, directrice générale depuis 2010, devenue directrice de l'administration des tribunaux région de l'Est au sein du ministère du procureur général de l'Ontario. Toujours dans le journal Express de Toronto, le gouverneur général David Johnson a annoncé cette semaine 95 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada, dont 3 compagnons, 13 officiers et 79 membres, et les récipiendaires recevront leurs insignes lors d'une cérémonie à une date ultérieure. Je vous rappelle, côté franco-ontarien, Caroline Andrew de l'Université d'Ottawa est la seule franco-ontarienne à être honorée. Bravo, félicitations. Action positive VIH SIDA est le grand gagnant de l'appel à projet Ma communauté s'engage. Projet VIH SIDA, femmes et santé sexuelle, reflet Salvéo, soutient ce nouveau projet de la communauté. Je vous rappelle, Reflet Salvéo est ici même sur notre territoire. On aura l'occasion peut-être de connaître, ils ont pas mal de projets et d'activités, je pense, à des plans d'action pour vivre en santé, en français surtout. Alors, donc, Action Positive VIH-SIDA en partenariat avec Oasis, Centre des Femmes, se souviendra. Et oui, tout ça, bien sûr, dans le cadre de la stratégie de Reflet Salvéo d'engagement communautaire. Reflet Salvéo avait lancé, je vous rappelle, en novembre dernier, un appel à projet afin de favoriser et soutenir les initiatives communautaires ayant trait à la santé. Les organismes ont soumis des projets, ils étaient 8, je pense, visant l'objectif général suivant, améliorer la visibilité des services en français, en invitant les communautés à se rencontrer pour échanger sur les services en français. Donc, jeudi dernier, les membres d'Action Positive étaient chaleureusement accueillis dans les locaux de Reflet Salvéo et le directeur général, Gilles Marchildon, et son personnel, accompagnés de membres du conseil d'administration et du comité de sélection, étaient au rendez-vous. Et Reflet Salvéo tient à remercier aussi tous les organismes qui ont participé à cet appel à projet. Ceci démontre la vitalité de la communauté francophone de Toronto, son engagement et sa richesse en termes d'idées à mettre en œuvre. Et je vous rappelle que Reflet Salvéo engage les communautés francophones diversifiées au centre-ouest du centre Toronto et de Mississauga-Halton afin d'assurer la planification de services de santé de qualité en français. Pour en savoir plus d'ailleurs sur Reflet Salvéo, vous allez sur www.reflet-salvéo.ca. Et puis justement, les organismes communautaires francophones des régions de Peel et Halton, il y en a plusieurs qui nous écoutent, qui nous syntonisent chaque dimanche, à qui nous disons bonjour. Eh bien, si vous œuvrez auprès des aînés francophones, et il y a une coalition là qui est en train de se former, coalition pour les aînés francophones, CAF, dans le but de promouvoir et d'améliorer l'accès aux programmes et ressources pour les aînés en français. Cette coalition reconnaît aussi que chaque organisme gardera son propre mandat, sa structure, ses activités, mais elle leur fournira aussi l'action de collaborer sur des objectifs communs. Et tout ça, bien sûr, est lancé par Reflet Salvéo. D'ailleurs, il y a un numéro, si vous voulez rejoindre la personne qui coordonne un peu ce projet au Reflet Salvéo, c'est Amandine Ilolo au Reflet Salvéo, numéro de téléphone 647 3 45 55 02 poste 226. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, la région de Peel et Halton compte plus de 7500 francophones âgés de 55 ans et plus. Voilà, le message est passé. Et oui, madame, monsieur, je vous rappelle que ce séisme en Haïti, on en a parlé pas mal cette semaine. Et ce séisme a-t-il eu un impact sur la vie des expatriés de l'île? Collaboration magazine Vivre ailleurs de RFI avant de passer à notre invité du jour, Fougère Adolphe, président de la Maison d'Haïti du Grand Toronto. Mais pour tout de suite, le magazine Vivre ailleurs, RFI.
Vivre ailleurs vous est proposé par la CFE, Caisse des Français de l'étranger.
Pour moi, c'était la rencontre d'un très grand bonheur et d'un très grand malheur, c'est-à-dire que je venais d'accoucher de ma première fille et j'étais chez moi en train de l'allaiter et c'est à ce moment-là que la maison a commencé à trembler et je me rappelle justement voir serrer ma fille en me demandant ce qui se passait.
5 ans après le tremblement de terre qui a secoué Haïti, l'artiste Pascal Monin, qui vit sur l'île depuis plus de 20 ans, s'en souvient encore comme si c'était hier. Un séisme auquel Port-au-Prince n'était pas du tout préparé.
Le tremblement de terre a étonné tout le monde. Pourtant, il y en avait eu un avant la Révolution, paraît-il. Nous n'étions pas conscients que c'était un risque. Et aussi, il faut dire que le pays n'a jamais construit avec des normes antisismiques. Et c'est une des raisons pour lesquelles le séisme a été si meurtrier.
Qu'est-ce qui a changé depuis ce séisme ?
Malheureusement, je dirais qu'il n'y a pas eu de changement de fond. L'aide humanitaire a débarqué, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à l'urgence. On se demande 5 ans plus tard quand arrivera la reconstruction tant annoncée et tant promise. Et finalement, aujourd'hui, l'impression, c'est que tout le monde s'en va, comme si Haïti était reconstruit, ou en tout cas que l'urgence n'est plus là, alors que si on regarde bien, la reconstruction tant promise n'a pas eu lieu.
Ça veut dire que dans les rues de Port-au-Prince, aujourd'hui, on voit encore des traces de ce séisme, 5 ans après.
Oui, bien sûr. Les débris ont été retirés, mais on voit des restes du tremblement de terre, même si c'est bien moins visible quand même qu'il y a 4 ans. On a reconstruit du temporaire, et aujourd'hui, on ne parle quasiment plus de la reconstruction, celle qui est supposée durer.
Louise Perrichon, chef de projet au Centre d'art haïtien, est arrivée à Port-au-Prince en 2007, 3 ans avant le séisme.
J'étais à mon travail, on était en fin de journée, le séisme. Aujourd'hui, on est assez loin du tremblement de terre, quelque part. Si on oubliait que c'était arrivé, on ne pourrait pas réellement en prendre conscience au jour le jour dans la vie des gens. Je pense que c'est présent chacun et c'est présent collectivement aussi, mais une page est tournée. C'est sûr qu'il y a une grande disparité entre physiquement dans la ville, entre le haut de la ville qui est devenu le centre économique. Donc je pense à Pétionville et qui a été vraiment reconstruit. Des gros efforts ont été faits pour rendre l'espace un peu plus chouette qu'il l'était. Mais par contre, le bas de la ville, qui était le vrai poumon historique économique, est encore complètement rasé. Et dans ce quartier-là, dans le bas de la ville, rien n'a changé, rien n'a été reconstruit en bas de la ville. Il y a des projets de reconstruction gouvernementaux sur les places principales, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que la ville est reconstruite.
Est-ce que le mode de vie des expatriés a changé à votre connaissance depuis le tremblement de terre?
Donc, je vois quand même certains expatriés qui s'installent pour 2 ans et qui viennent travailler dans des projets un peu de long terme. La vague d'urgence et des gens qui circulaient tous les 6 mois est un petit peu dépassée.
Vous n'avez pas connu d'expatriés autour de vous qui aient décidé de quitter Haïti après le tremblement de terre, par exemple?
Bien oui, dans des ONG, rares sont les urgentistes qui sont restés, en fait. Hein. Pour les gens qui étaient installés depuis longtemps en Haïti, on s'est réhabitués, on s'est réadaptés, on a vécu la période transitoire des 3 ans après le séisme, un peu chacun à sa façon, marquer la vie normalement comme avant. Quoi.
Haïti chérie, en avant tout me sorti la main dans le courrier.
Qu'est-ce que le séisme a changé dans la vie des expatriés en Haïti, Pascal Monin?
L'impact sur les expatriés, chaque personne a une histoire. Alors, par exemple, si je prends mon cas, moi j'habitais dans un quartier qui n'a pas été particulièrement touché. Par contre, quelqu'un qui était en ville, dont la maison a été cassée, détruite, bien évidemment, il y a un avant et un après tremblement de terre. c'est vraiment au cas par cas. Le tremblement de terre a détruit certes une partie de la ville, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui étaient détruites déjà en Haïti avant le tremblement de terre. Donc il y a la destruction physique, mais il y a aussi une destruction des institutions ou la désorganisation du gouvernement qui date, elle, de bien avant les tremblements de terre.
Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, des départs d'expatriés qui ont décidé, après le tremblement de terre, de quitter Haïti ?
La plupart des expatriés depuis 5 ans vivaient du tremblement de terre. C'est-à-dire que les expatriés, c'était souvent des humanitaires très bien payés. Toutes les aides, les millions promis sont repartis dans les pays qui ont donné sous forme de salaire et de paiement de gens sur place et n'ont pas tant été investis dans du dur et du durable pour Haïti. Donc finalement, beaucoup de l'argent donné est reparti d'où il était venu.
Les autorités haïtiennes ont décidé de perpétuer le souvenir de ce séisme avec un mémorial dans un parc de Port-au-Prince, un projet auquel vous participez en tant qu'artiste. Pascal Monin.
En Haïti, un des grands problèmes, justement, c'est un problème de mémoire. Et on a des fois l'impression que la mémoire est courte. Et c'est ce pourquoi je suis si fière et si contente de participer à ce projet de mémorial. La Fondation Connaissance et Liberté fait un travail magnifique à Marquisson, qui est un des quartiers très populaires de Port-au-Prince, où elle crée un espace de mémoire pour les disparus du tremblement de terre. Et donc, j'ai été approchée pour faire une sculpture, un mémorial, où on pense à tous ces disparus. Et justement, c'est mon grand souhait pour Haïti, c'est que de ce grand traumatisme, cet immense malheur, nous arrivions à construire une nouvelle Haïti plus juste et plus vivable.
Vous pouvez réécouter cette chronique sur les sites rfi.fr et lepetitjournal.com. Vincent Porat et Corinne Manjou vous donnent rendez-vous le week-end prochain, même heure, même antenne. Bonne semaine à tous.
Vivre ailleurs vous a été proposé par la Caisse des Français de l'étranger, la CFE, la Sécurité sociale des expatriés. Avec la CFE, vous quittez la France sans quitter la Sécurité sociale.
Et oui, de retour à Toronto, madame, monsieur, côté théâtre à ne pas rater dans la deuxième heure, nous allons accueillir la grande Evelyne de la Chenelière, auteure récipiendaire du prix du gouverneur général. Nous avons des billets pour vous, madame, monsieur, vous nous envoyez un message à pot.pourré@sympatico.ca ou encore 416-946-7000 pour aller voir la pièce Une vie pour deux, la chair et autres fragments de l'amour de la grande Evelyne de la Chenelière, madame, monsieur, la pièce présentée par le Théâtre français de Toronto, jouera au Berkeley Street Theatre du 21 au 25 janvier seulement. Alors faites vite, c'est la vie, c'est une vraie histoire d'ailleurs, hein, d'un couple qui part en vacances au bord de la mer d'Irlande et qui tente de faire le point sur 20 ans de vie commune. C'est une pièce avec plusieurs soubresauts, mais jouée avec brio. Les critiques sont unanimes. Donc, vous nous appelez, si cela vous tente, au 416-946-7000 ou encore envoyez-nous un message d'ici à demain, pot.pourré@sympatico.ca. Séisme en Haïti, 5 ans plus tard, comment CUTFM se souvient-il de cette tragédie? Je pourrais poser la même question à notre invité, Fougère Adolphe, président de la Maison d'Haïti du Grand Toronto et coordonnateur de la communauté haïtienne unie de l'Ontario. Bonjour Fougère.
Bonjour Eric, bonjour tous les auditeurs et auditrices de l'émission Popourri. Bonjour nos amis de la communauté haïtienne qui nous écoutent un peu partout à travers le monde.
Oui, alors comme vous voyez, Radio France Internationale toujours près, devant scène dans toutes ces situations qui nous préoccupent parce que nous avons une grande auditoire à Port-au-Prince mais aussi un peu partout à travers Haïti. Qu'avez-vous fait cette année, Fougère, pour commémorer justement ce séisme du 10 janvier 2010 ?
Et nous avons organisé un mémorial pour marquer la mémoire de nos compatriotes qui ont été disparus lundi du 12 janvier. Mmh. Nous avons réfléchi aussi sur ce que la diaspora, les Haïtiens vivant à l'étranger, devront faire pour accompagner le pays pour un développement réel. Et je vous assure que nous avons obtenu beaucoup d'informations de nos compatriotes qui ont participé à cette activité. avons compris aussi qu'il y a une volonté extrême de nos compatriotes d'accompagner l'équipe au pouvoir, d'accompagner la société civile pour une reconstruction réelle d'Haïti.
Vous savez, les gens qui nous écoutent en ce moment et qui sont très, d'ailleurs, affectés, hein, encore aujourd'hui, 5 ans après, je regarde en Belgique, en France, il y a eu beaucoup de familles qui ont commencé à adopter des enfants qui n'avaient plus de parents, vous vous souvenez? Et c'était un drame incroyable, mais vous êtes au courant aussi qu'à ce jour, il y a l'aide internationale qui a envoyé 7,6 milliards de dollars en Haïti. Comment expliquer, mon cher ami, je sais que vous vivez ici, vous n'avez pas nécessairement toutes les données, les informations précises, mais comment expliquer qu'il y a encore des centaines de familles haïtiennes qui vivent dans des taudis aujourd'hui?
Merci pour l'intervention. Je tiens à vous dire que effectivement, on a dit qu'il y a 7,6 milliards d'aides qui sont parties en Haïti, mais si on tient compte du déclaration du président de la République, des 12 milliards qui ont été promis, c'est 4 milliards que l'État ici a pu recevoir. Mais vous savez que 48% de cet argent va dans l'aide humanitaire. Est-ce que vous pensez que l'aide humanitaire, c'est pas, pour nous, c'est pas une bonne chose? Au départ, nous sommes d'accord que le pays était à genoux. Nous avons besoin de l'aide humanitaire. Maintenant, Haïti n'a plus besoin de l'aide humanitaire. Nous avons besoin maintenant des gens qui sont disposés à aller investir dans le pays pour nous aider à créer de la richesse. Et un des grands problèmes de 7,6 milliards qu'on parle, qu'on dit qu'on a investi en Haïti, je vais vous rassurer, mon ami et compatriote, c'est que cet argent n'a pas été dépensé réellement en Haïti. Si on tient compte des ONG humanitaires qui sont en Haïti, prenons le Canada par exemple. Le Canada a investi 831 millions de dollars en Haïti. Et cet argent sont passés par le canal des ONG canadiens. Ce qui sous-entend, la majorité de l'argent s'est retourné au Canada à travers ces ONG canadiens et à travers les Canadiens qui aillent travailler là-bas. Et si vous voulez faire des investissements, je pense qu'on devrait accompagner l'État haïtien et que l'argent devrait y aller vers l'État haïtien pour faire le développement.
Vous savez,
l'argent a été distribué dans la location des voitures et des gens qui sont là-bas. Mais le peuple haïtien, c'est vous, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui a été fait par l'aide internationale. Mais ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle moi je dis souvent et je lance un cri d'alarme à nos compatriotes haïtiens. La reconstruction du pays doit passer d'abord par les Haïtiens. Nous avons besoin de nos amis de l'international, mais ce sont les Haïtiens qui doivent s'accorder, qui doivent s'unir pour développer réellement le pays. Oui. Nous ne devons pas compter sur l'aide internationale. D'ailleurs, nous pouvons constater dans tous les pays où c'est l'aide internationale, il n'a pas eu de développement.
Mais en effet, parce que c'est quand même affolant, si ces statistiques s'avèrent réelles, réalistes, on nous dit qu'il y a plus de 79 000 Haïtiens qui vivent aujourd'hui toujours dans des camps où se sont développés, comme vous le savez, des problèmes d'accès à l'eau potable, à des installations sanitaires, de surpopulation, de violences sexuelles, de propagation de maladies et d'infections. C'est quand même beaucoup après 5 ans après. Et maintenant, parlons un peu de la politique, parce que il y a aussi ce nuage assez lourd qui plane depuis des années et des années et des mois. Et on voit qu'il y a des manifestations parce que tous les jours pour demander la démission du président actuel, M. Martelly. Et il a pu finalement, vous êtes au courant depuis la réalisation de ces entrevues avec RFI, mais M. Evans Paul, sa nomination a été ratifiée finalement. Pensez-vous que... Et lui, il cherche un genre de gouvernement de coalition. Il va même essayer de parler avec l'ex-président déchu, M. Aristide. Est-ce qu'il y a un peu d'espoir là? D'ailleurs, les gens se posent des questions. On a chassé Aristide du pouvoir. Comment avoir un ennemi du peuple de retour pour travailler? Pensez-vous qu'il y a vraiment un peu d'espoir? C'est pas une cacophonie qui finalement est en train de se préparer pour un désastre encore plus énorme pour les Haïtiens? Qu'en pensez-vous?
Moi, je pense que tout d'abord, il faut reconnaître que l'équipe Martelly-Lamotte a organisé beaucoup de progrès après le séisme. Vous savez que en prenant un pays après le 12 janvier, dans cette situation où le pays était aux abois, et l'équipe gouvernement Matéli Lamotte a pu réaliser beaucoup de choses. Une des choses, moi, que j'accorde beaucoup d'importance, et ce gouvernement a permis à beaucoup de nos compatriotes de fréquenter les bancs de l'école. Nous savons que si nous voulons faire un développement réel, il faut l'éducation. Et le gouvernement a pu faire l'éducation son cheval de bataille. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été fait. Mais, du point de vue politique, vous savez que nous avons une classe politique en Haïti, il faut le dire. Et c'est une classe politique, on peut dire, qui a échoué. La classe politique a échoué sous plusieurs branches. Il n'a pas pu arriver au pouvoir. Moi, je pense, l'élection, c'est l'expression populaire de la population et c'est la population qui décide qui va diriger ce pays. Si la population a fait choix de M. Matéli pour un mandat de 5 ans, je suis sûr qu'il doit passer ses 5 ans au pouvoir.
D'ailleurs, il a dit qu'il ne veut pas se faire réélire après son mandat. On verra bien. Alors, le temps passe. On aimerait aussi parler de vous, avec vous plutôt, de ces Haïtiens et l'immigration. Je sais que vous étiez dans les médias récemment pour faire pression auprès de Immigration Canada pour revoir un peu les politiques d'intégration, réunification de familles depuis le 12 janvier, après ce séisme, parce qu'il y a encore là des incompréhensions au niveau des politiciens du gouvernement du Canada pour alléger le fardeau de toute la paperasse bureaucratique, n'est-ce pas? Et je pense que vous êtes descendu un peu dans les rues pour crier haut et fort avec d'autres organismes. Est-ce que depuis ce temps, il se sont passés des choses positives avec le gouvernement du Canada?
Jusqu'à présent, rien n'a été fait. De toute façon, nous, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de discuter avec nos compatriotes un peu partout, par exemple de l'Afrique, pour voir comment on peut faire une proposition fiable au gouvernement. Vous comprenez que le gouvernement canadien demande à ses concitoyens de ne pas fréquenter Haïti parce qu'il y a l'instabilité. Et c'est à cette même période que ce même gouvernement a décidé de lever une moratoire qui avait été. Pourquoi? Est-ce que c'est une politique de poids et de mesure?
Oui.
Nous, de la communauté haïtienne, nous avons compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous avons fait nos devoirs, nous avons écrit le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration Canada, nous avons pu rencontrer les différents acteurs, nous avons rencontré des parlementaires pour exposer le problème, et nous avons parlé avec nos compatriotes du côté de Montréal, nous avons parlé avec l'ambassade d'Haïti et le consulat pour voir quelle action concertée que nous pouvons faire ensemble pour demander au gouvernement canadien de suspendre cette décision. Parce que vous savez, et nous avons de nos camps 3200 compatriotes qui sont dans des situations difficiles. Mais par contre, nous savons déjà que c'est une décision fédérale et nous ne savons pas qu'est-ce qui va y arriver. Entre temps, nous de la communauté haïtienne, nous sommes en train d'organiser nos compatriotes, de leur accompagner pour pouvoir leur aider de toute façon à monter leur dossier humanitaire comme on l'a demandé. Mais on sait déjà, il y a un problème avec la question humanitaire. La question humanitaire, ça dépend de l'agent, de sa volonté, s'il veut ou non. Mais nous avons proposé une chose au gouvernement. Tous les Haïtiens qui ont été là 5 ans au pays, on demande au gouvernement canadien automatiquement d'accorder la résidence permanente à ses concitoyens. Comment voulez-vous des Haïtiens, des citoyens qui ont fui le pays à cause des fois de la répression politique? Comment voulez-vous que Aristide, qui était un des acteurs qui l'ont poussé à aller sur le pays, ait de retour dans le pays, et vous avez pu constater qu'est-ce qu'il a tenté de faire à travers ses collègues dans les rues de Port-au-Prince?
Merci infiniment.
S'ils retournent, oui, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils seront beaucoup plus en danger. Nous profitons de votre micro de lancer un appel encore au gouvernement canadien de retourner sous sa décision et d'accorder la résidence permanente à nos compatriotes.
Merci infiniment. Malheureusement, le temps passe. Je dois passer aux nouvelles. Fougère Adolphe, président de la Maison d'Haïti du Grand Toronto. Un numéro de téléphone si les gens veulent entrer en contact avec vous. 2 secondes seulement.
647 712 1968. Merci beaucoup une bonne journée.
Merci infiniment, Fougère Adolphe, président de la Maison d'Haïti du Grand Toronto, coordonnateur de la communauté haïtienne unie de l'Ontario, madame, monsieur. 5 ans après, c'était, oui, il y a 5 ans, jour pour jour, presque, Haïti était frappé par un terrible séisme. Et encore, nos condoléances à toutes les familles, toutes les victimes, les survivants, les survivantes. CUTFM s'en souvient.
On agit.
Avance dans les ténèbres, même à plat, pour y croire avant de partir.
Sous les gravats, Haïti.
Restez fiers, la tête haute, le temps des flammes, le temps des martyrs.
On a vu et ressenti, et loin d'être une fiction. J'ai tellement de choses à dire, mais l'heure est à la reconstruction.
Ils ont besoin de nous, de vous, foncer au bal. Pour les aider à ne plus avoir mal.
Francophonie, Marion Urban.
Elles sont nées en plein dans la crise franco-américaine à propos de la guerre en Irak. Ce sont les soirées French Tuesdays, les mardis français. Elles rassemblent aujourd'hui entre 200 et 300 francophiles et francophones à New York et à Miami. Pierre Battu et Gilham Salem, leur concepteur, nous racontent comment leur idée est devenue aussi une bonne affaire. Bonjour à toutes et à tous.
Et oui, madame, monsieur, vous écoutez Popourri Show, CUT 89,5 FM. Ne partez pas, nous serons bien sûr en compagnie avec une grande auteure francophone. Et oui, très reconnue ici dans le monde du théâtre. À ne pas rater, nous avons des paires de billets ici qui vous attendent. C'est bien sûr Evelyne de la Chenevière qui nous présentera Une vie pour deux, la chair et autres fragments de l'amour. Une pièce qui sera présentée par le Théâtre français Toronto du 21 au 25 janvier au Théâtre à Berkeley, ici à Toronto. Pour nous joindre, nous avons des paires de billets pour vous. 86 9 46 7000, ou encore pot.fourré@sympatico.ca. Et puis dans la deuxième heure, bien sûr, nous parlerons de la francophonie, mais aussi de Couleur Tropicale avec son agenda musical et les nouveautés de la chanson française africaine Afrobeat. Et oui, à travers la planète. Et puis, je vous rappelle encore une fois que le mois de la langue française et de la francophonie se prépare. Et oui, mars 2015, ce mois permet de célébrer la langue française à travers de nombreuses animations organisées par CUTFM, le département d'études françaises, l'Université de Toronto et Radio France Internationale. Si vous décidez, vous inscrire comme partenaire, commanditaire, vous nous envoyez un message tout au long de la semaine, pot.pourré@sympatico.ca, le point de l'actualité avec RFI.
Hi, this is John Valentine. Each and every week, I keep you informed and entertained with the latest news and music from the blues community, both here and abroad. So tune in on Thursday afternoons, beginning at 4 p.m. for John Valentine's Blues, for your window into the blues scene today. Only on CIUT 89.5 FM.
Yes, it's winter. Again. Every year we face the cold and the snow, but this year we don't have to be miserable. Embrace winter by coming to the Hart House Winter Blast Party. On Thursday, DJ Jason Palma will be broadcasting live here on CIUT, and there will be warm drinks, delicious snacks, and special guest appearances by Bonhomme Carnival from the Quebec Winter Carnival. He'll be here to raffle off a free trip to Quebec, including a 3-night stay at the spectacular Quebec City Hilton, plus free admission to the Quebec City Carnival sites. Every Winter Blast ticket purchased is eligible to win, but you have to be there for the draw. Dance outside in the quad under a display of sparkling lights, warm up under the heat lamps or by a roaring fire. Sip hot chocolate or sample the traditional drink of the Winter Carnival, made from a mixture of wine, alcohol, and maple syrup. It will warm you inside out. Get your Winter Blast tickets before they sell out. Go to harthouse.ca or visit the U of T Tix box office at Harthouse.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, Toronto. Sound of your city.
RFI, la radio mondiale.
Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
Le Tropical, oh yeah.
Le Tropical.
Ah ouais.
Couleur tropicale.
On dirait de l'eau sucrée.
Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on va.
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère.
Couleur tropicale avec Claudicia.
Toi-même tu.
Benjamin Saravi, Annabelle Jogamandi, c'est bien le show afro de la radio du monde. Et l'affiche est belle, juste après les prochaines infos, Top One Frisson et Nash seront nos invités, le Congo et la Côte d'Ivoire dans un même élan. En première manche, la séquence couleur tropicale, nous, couleur tropicale collection, nous plongera au cœur de l'année 2001. Et c'est Petit Denis qui sera à l'honneur. Bonne arrivée la famille, voici Fala Freddy.
In time, the trees die in light. We'll fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away.
Let us pretend we've got it together. Let us ignore the coming song. We'll sing the body electric tune, machine and soul.
Il est incontestablement l'une des grandes révélations de l'année 2014. Bon, c'est vrai que Fada Freddy n'est pas un inconnu. Daraji, puis Daraji Family, l'évolution d'un groupe qui, au milieu de la décennie 90, a écrit les premières pages du rap sénégalais, du rap d'Africa en général. Wasting in Time, Fada Freddy, une chanson d'union, de partage, de bonheur, de joie. À l'inverse de ce monde, vous en conviendrez. Tenez, aujourd'hui marque l'anniversaire de la fin de la guerre du Biafra. C'était le 15 janvier 1970, un conflit dans lequel certaines nations africaines et occidentales jouèrent un sale jeu, c'est le moins que l'on puisse dire là encore. Le 15 janvier 1991 marque la fin de l'ultimatum contre l'Irak de Saddam Hussein. Le monde entier assistera et participera à la première guerre du Golfe. La coalition, souvenez-vous, la suite vous la connaissez. Destruction de l'Irak jusqu'à son occupation en 2003, un pays que l'on a fait reculer de 40 ans en arrière. Au regard de l'actualité française, en résonance avec l'actualité internationale, on se dit que, devant la liberté d'expression, les droits de l'homme, nous ne sommes pas tous égaux. Ce monde d'inégalité nous réserve le pire. J'en ai bien peur. Allez, voici quelques chansons d'amour afin de panser nos blessures à l'âme. Me love you. Medi Custos. Good song.
Give me love, girl. C'est tout en moi qui vient embraser. En vérité, pas t'es pas résister. En dit dans moi, t'es ni en boule du fait. Et puis tout le temps, que moi, t'es joué en avant. Ça qui en dit dans le qui ça qui apparent. Apparemment, où j'en fais, on le nomme rampé. En cas qu'on prenne, vous passe pas ou pas, vous trompez. Moi, t'es qui drague, ou pour après la guerre. Ça, moi, fait serrer, t'es un.
Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Mehdi Custos, le mélodiste surdoué du zouk. Mehdi Custos sera l'invité du Claudie Show le jeudi 12 mars sur France O, à la veille des 20 ans de Couleur Tropicale. On va en parler dans quelques instants. Le Claudie Show qui ne s'arrête pas sur TV5 Monde, Africable, Espace Guinée, Electron TV, et qui reprend le 5 février sur France O. Me Love You, c'était Mehdi Custos, extrait de l'album ADN.
Dédicace à Claudicia.
Ouais, ouais.
C'est ça. Tropicale. C'est ça.
T'as pas joué nos coups.
Salut, je suis Petit Pays.
C'est Amadou.
Et Maria.
Salut, hey, c'est Petit Pays. Dans Couleur Tropicale.
Toi-même, tu sais.
Justement, hey, Petit Pays, il va y avoir un son là. Bien pour toi, ça c'est le son du pays. Coco Argenté. Écoute RFI.
Dis-moi. Que veux-tu moi?
Aujourd'hui tu m'appelles, je suis un méchant. Aujourd'hui.
aujourd'hui tu passes tes nuits au bureau. Pourquoi aujourd'hui tu m'appelles Madame Pression? Aujourd'hui tu dors avec ton ballon. Pourquoi aujourd'hui tu m'appelles Super Reclou? Aujourd'hui tu m'appelles Bolo Bolo Bolo. Gili Gili Gili. Bolo Bolo Bolo. Pourquoi aujourd'hui tu m'appelles Bolo Bolo Bolo? Gili Gili Gili. Bolo Bolo Bolo. Fallait faire un peu, il fallait faire un peu, fallait faire un peu, il fallait seulement faire un peu, fallait faire un peu, il fallait faire un peu, fallait faire un peu, il fallait seulement faire un peu.
Parce que bébé la 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 la.
Le titre, fallait pas, le pouvoir du Bikutsi avec Coco Argenté. Le Cameroun est dans la place. L'occasion de rappeler la mémoire d'un grand homme, Ernest Ouandié, un des leaders de l'indépendance du Cameroun, successeur de Félix Moumié à la tête de l'UPC. Le 16 janvier 1991, il sera élevé au rang de héros national. Ernest Ouandié est mort le 15 janvier 1971. Nous ne devons pas oublier nos héros. Le savoir est une arme. C'était la séquence Génération Conscience.
Si j'avais 20 ans, je mangerais le monde.
Votre fille a 20 ans, que le temps passe vite.
Et vous avez vécu 20 ans.
Couleur tropicale.
Et pour ces 20 ans, avant le concert parisien du 13 mars au Pan Piper, nous serons en tournée, le Toi-même tu sais tour, à partir du 29 janvier en Haïti, passez le message. Et puis nous vous offrons quelques grands moments de l'histoire de Couleur Tropicale. Et pour cette séquence du Couleur Tropicale Collection, nous nous sommes arrêtés le 1er mai 2001. Ce jour-là, nous recevions l'un des princes du Zouglou, Petit Denis.
Couleur Tropicale Collection 2001.
Ariel Sharon, au lendemain de son triomphe électoral, veut ainsi marquer son attachement à Jérusalem.
Une explosion très violente survient à l'usine pétrochimique AZF dans la banlieue sud de Toulouse.
Trenet chante une dernière fois. Le chanteur qui est mort à l'âge de 87 ans laisse une œuvre considérable et un sourire éternel.
Couleur tropicale. 2001.
Non, non Patrick, j'ai dit non. J'ai dit non, aller à cette soirée, c'est hors de question. Non, non.
Salut Claudie.
Eh hey, petit Denis, salut, comment vas-tu?
Ouais, tranquille, ça va.
Ouais, on s'est bien occupé de toi et tout, on t'a bien reçu.
Très bien, très bien.
Bon. Ouais.
Et Claudie, ça te dirait de venir à la soirée avec moi?
Ah oui, mais bien sûr, je viens à la soirée. Non, il y a pas de problème, hein. Non,
j'ai
non.
J'ai cru t'attendre tout de suite que tu ne voulais pas aller à la soirée.
Mais pas du, j'ai dit ça? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Bon, on va faire l'émission, on va rentrer en studio. Peut-être là, les auditeurs nous attendent, on y va.
Oui, il n'y a pas de problème.
Ok. Moi, j'ai dit que je voulais pas aller à la soirée, mais pas du tout. J'ai dit ça.
Messieurs et dames, bien bonsoir. Voici Couleur Tropicale.
Ou bonjour, ou bonne fin d'après-midi. Vous connaissez la formule consacrée après les spéciales de Couleur Tropicale qui ont duré un peu plus de 15 jours. Après le premier bilan du pays avec nos correspondants, la démesure musicale reprend son rythme normal. Petit Denis, mon frère, bienvenue.
Ouais, bienvenue.
L'histoire que tu racontes dans Sécurité, c'est le fruit de ton imagination, bien sûr?
Oui, bien sûr, c'est le fruit de mon imagination. Et ça me fait plaisir
ouais.
Et d'être avec toi. ce soir.
Ah bah écoute, tout va bien. Petit Denis, alors ce qui est dit, alors c'est une phrase qui fait sourire, qui est reprise par tellement de gens à longueur de journée, parfois ils sont même complètement hors sujet, mais c'est le plaisir de dire ce qui est dit. Une de nos rubriques dans Couleur Tropicale, présentée par Zekeyamo Masremoniaola, a été baptisée ce qui est dit. Lorsque tu as composé cette chanson Sécurité, tu voulais justement faire de ce qui est dit une phrase à la mode, comme ça un leitmotiv?
Ouais, c'est un peu ça, parce que quand on dit ce qui est dit, c'est-à-dire dès qu'on dit quelque chose, on ne peut pas changer quoi. Si tu as dit, ça reste là quoi. Mm-hmm. Voilà. Bon, moi je savais que ça allait forcément plaire aux gens. Bon voilà, c'est un mot aujourd'hui qui accroche, mais ça me fait plaisir.
Ah ouais,
voilà.
Non, vraiment, vraiment, tu as bien trouvé. Ouais. Il va falloir que l'on embauche Petit Denis pour nous trouver les slogans pour l'émission, ouais. Parce que c'est fort. Ouais. Pourquoi t'es-tu appelé Petit Denis? C'est à cause de ta taille?
Non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai commencé la chose un peu tôt. C'est-à-dire, j'étais très jeune encore quand j'ai commencé, bon voilà quoi.
Quel âge as-tu aujourd'hui, attends?
Aujourd'hui, j'ai 23 ans.
Ah, d'accord.
Ouais. Et j'ai commencé quand j'avais 14 ans. Mm-hmm. Voilà, et j'étais le plus petit de mon groupe, voilà quoi. Petit Denis jusqu'à aujourd'hui.
Mama oh, mama, mama oh, Abidjan. Mama oh, mama, l'insécurité va nous déjà. Tu accroches ton chapeau. Tu déposes ta brosse à dents. Ils vont voler. Tu déposes ton dirigeoir. Ça va, ciao. Mama oh mama, mama oh Abidjan. Mama oh mama, l'insécurité va nous déjà. Là-bas à Trècheville, dans une cour commune, les habitants de là-bas ont reçu la visite des braqueurs. Les braqueurs coagulés. C'est lui qui dit on bouge. Aujourd'hui on fait pas l'argent, on fait pas bijoux, on fait pas tuer, mais on fout toutes les coups. Il y a une petite fille, elle dit pas ton tonton. Ma grand-mère qui est là, elle est beaucoup vieille, elle ne peut pas marcher, pardon, ne la touchez pas. Il y a 20 ans, ton grand-père est décédé. Je n'ai plus de pointeur dans ce qui est dit, en fout tout le monde. Parmi les filles, il y avait un traversi avec une perruque, maquillage.
Tube, 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 titre culte même du Zouglou, Sécurité, Petit Denis. Il y a une version de Couleur Tropicale enregistrée en 2001 au Cameroun. Un moment exceptionnel avec le public.
Ne partez pas, messieurs et dames. Hein. Nous revenons après les informations. Hein.
Emmanuel Klotz.
Encore 5 morts dans les manifestations anti-Charlie Hebdo au Niger. 5 morts à Niamey, dont 4 dans des églises incendiées. Après ces violences, le président Issoufou avertit ceux qui persécutent ainsi les chrétiens qu'ils n'ont rien compris à l'islam. Dans cette ambiance particulièrement tendue, l'opposition maintient sa manifestation qui était prévue dimanche et qui avait été interdite par les autorités. En France, un sondage publié dans le journal du dimanche montre que plus de 4 Français sur 10 estiment qu'il faudrait éviter de publier des caricatures de Mahomet. Dans le même journal, Nathalie Kosciusko-Morizet, vice-présidente de l'UMP, rappelle que personne n'est obligé de lire Charlie Hebdo. Depuis la Corrèze, où il présentait ses vœux ce week-end, le président Hollande a également insisté sur l'importance des valeurs de la France, au premier rang desquelles la liberté d'expression, le chef de l'État qui insiste sur le fait que rien ne sera plus comme avant en France et qu'il souhaite l'apparition d'un esprit du 11 janvier. Le président Hollande, dont la cote de popularité a monté grâce à ces événements, plus 10 points en une semaine avec 34% d'opinion favorable. La suite de l'enquête sur la cellule djihadiste qui a été démantelée en Belgique jeudi, 4 hommes ont été arrêtés été à Athènes, en Grèce, parmi eux peut-être Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé qui a été identifié. Peut-être un début de mobilisation contre Boko Haram. Le Tchad déploie en ce moment son armée au Cameroun. 400 véhicules militaires ont passé la frontière. Le président Idriss Déby demande la formation d'une coalition d'Afrique centrale contre le groupe islamiste armé. 337 voix pour, 8 contre, 24 abstentions. L'Assemblée nationale de RDC a adopté la loi électorale qui lie l'organisation des prochaines élections au résultat du recensement général qui doit commencer normalement cette année. Cette proposition pourrait permettre au président Kabila de se maintenir au pouvoir. La mort de Faten Amama, la star du cinéma arabe des années 60, avait 83 ans. Et puis enfin, football, le début de la CAN. Le Gabon bat le Burkina Faso 2-0, un partout pour la Guinée équatoriale et le Congo.
Les 24 heures du roman. Une aventure littéraire et ferroviaire présentée par Écriture en Mouvement dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de la présence francophone en Ontario. Écriture en aventure avec 24 écrivains dans un train de vie à rail. Ensemble, ils écriront, certains diront que c'est en lisant qu'on devient lisant. De Halifax, Montréal et Toronto, le 400e en Ontario, un parcours de mots. Les 24 heures du roman, un voyage hors du temps. Le 23 octobre 2015, 24 écrivains, incluant des franco-ontariens, acadiens, québécois et amérindiens, ensemble, ils vont explorer l'histoire tout en découvrant une histoire à plusieurs voix. Tout au long de 2015, sur les traces de Samuel de Champlain en Ontario. Les 24 heures du roman, une expérience à la croisée de plusieurs cultures. L'écriture en mouvement, un concept inédit. Les 24 heures du roman, en partenariat avec l'Association des auteurs de l'Ontario français, VRI, le Consulat général de France à Toronto, Popourichaud CIT 89,5 FM. Les voyages en train chez VRI offrent une occasion unique de découvrir l'histoire, la nature et la culture et de se reconnaître mutuellement. N'attendez plus, inscrivez-vous, participez à nos jeux concours. Et qui sait, vous courez la chance d'être à la fête. Pour tout savoir, pot.pourri@sympatico.ca. Bonne chance et bon voyage.
Right here, right now. Every day, CIUT 89.5. The sound of your city. Toronto.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Janvier 2015, j'ai pas envie d'aller au lit. Je préfère prendre un stylo car ce soir, je suis Charlie. Nos artisans de la liberté ont rencontré leur destinée. Ce soir, j'écris pour eux parce que je sais pas dessiner. Soyons 66 millions à avoir la même idée pour que leurs cartouches d'encre à eux ne soient plus jamais vidées. Laissons des traces indélébiles pour que l'avenir puisse savoir que leur talent et leur courage ne vivent pas que dans nos mémoires. Écrivains, paroliers, dessinateurs, graffeurs, musiciens, poètes, peintres et sculpteurs, célébrités anonymes, professionnels et amateurs, faisons en sorte que cet élan s'affiche plus loin que sur Twitter. Des hommes sont morts pour défendre la liberté d'expression, mais leurs idées doivent rayonner et ne subir aucune pression. Contre l'obscurantisme avec honneur et insolence, à nous de prendre les crayons pour que leur combat ait un sens. J'ai mal à l'être humain, comment en est-on arrivé là? Perdu dans ce vacarme, la fraternité chante a cappella. La barbarie grandit sans aucune trace de dignité. En 2015, le monde a perdu toute humanité. Si seulement les mois qui viennent pouvaient me faire mentir, si seulement ce drame abject pouvait nous faire grandir, puissions-nous nous réunir pour croire ensemble à l'embellie. Quoi qu'il advienne, j'ai un stylo, car ce soir, je suis Charlie.
Oui, mesdames, messieurs, vous écoutez Popourri Chaussée, UT 89,5 FM. Rebienvenue à tous et celles qui nous envoient des tweets, mais aussi des messages sur Facebook. J'espère que vous serez nombreux à être au rendez-vous avec notre deuxième invité dans quelques secondes. Merci à Laura. Je ne sais pas, c'est une auditrice qui nous a envoyé une très jolie carte, très belle carte, qui nous souhaite une très bonne année, superbe année 2015. Best wishes. Alors, Laura, pourquoi ne pas nous envoyer votre courriel aussi, comme ça on pourra échanger. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez télécharger toutes nos émissions tout au long de la semaine. Mon prochain invité est l'une des figures les plus significatives de sa génération, surtout sur la scène du théâtre, théâtrale au Québec. Elle est comédienne, dramaturge de la scène du théâtre québécois. Elle habite à Montréal, prix du gouverneur général pour la pièce Désordre public, prix de la dramaturgie de la langue française 2010, de la SACD pour sa pièce de théâtre Les Pieds des Anges. Je vous rappelle que plusieurs de ses pièces ont été traduites dans plusieurs langues et présentées au Canada mais aussi à l'étranger. Madame, monsieur, dans un instant, nous allons vous présenter cette grande auteure qui nous présente une pièce bientôt au Théâtre français de Toronto, Une vie pour deux, La chair et autres fragments de l'amour de Evelyne de la Chelenière qui sera des nôtres dans un instant. Alors bonjour Evelyne, comment allez-vous?
Très bien, merci. Merci de me recevoir à distance.
Oui, ben oui, vous êtes encore à Montréal en ce moment?
Mais oui, tout à fait.
Est-ce que vous comptez descendre à nous rendre visite?
C'est encore incertain, mais j'ai très envie. Je déploie beaucoup pour que ce soit possible.
Alors, beaucoup de critiques extraordinaires, hein, même poignants. Je veux dire, on ne peut pas rester insensible face à ces critiques. Avant de brosser un tableau de tout ce que j'ai pu repérer pour inciter les gens, j'espère qu'ils seront nombreux à assister à votre pièce. Qu'est-ce qui vous a inspiré quand vous avez créé cette pièce?
Ben, alors déjà, faut savoir que je me suis inspirée d'une matière romanesque, donc d'un roman de l'auteur Marie Cardinal, qui est d'une part en elle-même une grande plume et très représentative d'une certaine libération de la femme dans les années 70. Et cet auteur-là est aussi était aussi l'épouse d'un grand homme de théâtre, Jean-Pierre Ronfard, qui n'est plus lui non plus avec nous malheureusement, mais en tout cas cette figure là, ce roman là qui était très 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 autobiographique, m'a donné envie de, par le truchement de cette histoire là, de cette fable là, m'a donné envie de réfléchir à mon tour sur l'intimité amoureuse et l'épanouissement de l'individu à travers ce projet bien mystérieux qui est Vivre à deux.
Oui. Donc c'est une vraie histoire?
Oui, c'est une vraie histoire, mais romancée.
Et alors, ça se passe en vacances, au bord de la mer?
Tout à fait.
En Irlande?
Oui.
Alors, pourquoi l'Irlande, d'ailleurs?
Ben, écoutez, c'est une géographie qui est exaltante, hein, ouais. qui agit sur les individus, je le crois fortement. C'est aussi, dans l'histoire, une sorte d'isolement que s'accorde ce couple-là, donc, pour tenter, en quelque part, de se retrouver ultimement, après, justement, avoir élevé des enfants qui sont maintenant adultes, etc. Ils ont envie, mais je crois, redoutent aussi cette sorte de face-à-face qui les attend et qui va être, donc, perturbée par la découverte du cadavre d'une noyée sur la plage d'Irlande.
C'est une pièce assez bouleversante.
Oui, ben, c'est-à-dire que je crois que oui, parce que quand même, il est question aussi de chaque individu devant la perspective de sa propre mort, de sa propre disparition, de son propre désir d'exister dans le regard de l'autre, mais aussi indépendamment du regard de l'autre. Et cela dit, je crois, enfin, c'est peut-être mal placé pour le dire moi-même, mais j'ai reçu aussi beaucoup de beaucoup de commentaires de spectateurs qui, justement, je crois, trouvaient dans cet objet une sorte de d'endroit très très rare qui est entre le rire et les larmes, finalement, puisque il y a quelque chose d'aussi désespérément comique dans notre volonté de trouver un sens à nos existences ensemble. Des fois, ce sens vous échappe et vous fait dire ou faire des choses un peu incongrues. Mmh.
Louise Bourdonnais, du Journal de Montréal, écrit « Le texte d'Elvin est magnifiquement bien écrit, faisant ressortir de très grandes émotions, une superbe pièce à voir, aussi troublante qu'émouvante. » Valérie Patry de sortu.ca qui écrit « L'auteur surprend, trouble et émeut son public avec des mots qui déboulent, qui frappent et qui font vivre des émotions comme rarement une pièce réussit à le faire. Violette Chauvreau est tout simplement incroyable, un tour de force de la comédienne qui restera certainement gravée dans la mémoire de tous ceux qui assisteront à ses prouesses d'interprétation, comédien hors pair, mise en scène simple, juste et parfaitement adéquate d'Alice Ronfard, à voir absolument. Une vie pour deux qui nous plonge vraiment donc dans une vie de couple qui est franchement troublante, inspirante et vraiment lumineuse. C'est ça que j'aime. Qu'est-ce qu'il y a de lumineux d'après vous?
Ben, d'après moi, ce qu'il y a de lumineux, c'est que l'énergie qui anime les personnages et l'énergie de l'espérance, l'énergie d'une pulsion de vie et de foi en la vie, en la rencontre, au partage. Donc il y a quelque chose qui est même dans une certaine détresse, qui est pas de l'ordre du désespoir ou du renoncement. Au contraire, c'est un combat pour une sorte de joie. Mmh.
Parlez-nous un peu de vos personnages.
Ben, vous avez fait allusion au personnage interprété, c'est la vérité d'une façon magistrale par Violette Chauvreau. Je dirais que ce personnage-là est l'image d'une femme qui veut aimer et qui veut à la fois quelque part qui représente cette espèce de déchirement qui peut arriver à toutes les femmes, aussi à tous les hommes, mais peut-être surtout à toutes les femmes, cette envie de se dédier à l'idée qu'on se fait d'une famille et d'un couple épanoui dans une sorte d'équilibre, et pourtant une espèce de déchirement parce que une sensation de disparaître dans ce rêve-là.
Elle a une personnalité très forte, hein.
Oui.
C'est une femme passionnée, jalouse,
oui.
Comédienne qui donne souffle bouleversant, et c'est un personnage qui se bat avec les mots.
Exactement, c'est une femme complexe, et j'ai choisi, oui, d'employer la métaphore de la perte du langage pour illustrer le combat qu'elle mène. Donc, c'est vrai que c'est très troublant et très beau de voir ce personnage évoluer, une femme donc de lettres, de mots, de pensées qui peu à peu perd l'usage de la parole et devient quelque part emmurée dans sa tête, dans les mots qui ne peuvent plus sortir de son corps. Mais cela dit, c'est vraiment une métaphore pour aller vers la poésie. C'est pas non plus une manière terre à terre et réaliste d'aborder cette maladie-là. C'est plutôt un tremplin vers la poésie pour moi.
Mmh. Et les autres?
Et les autres, ben, Jean-François Casabonne incarne donc le rôle du mari de Simone, qui lui aussi est dans une réflexion existentielle sur sa vie d'individu, sa vie de couple, et il a beaucoup beaucoup d'amour pour cette femme un petit peu démesurée qui est la sienne, et c'est très beau de le voir évoluer là-dedans aussi. Et enfin, il y a vraiment ce personnage-là fantomatique qui est donc la noyée, le cadavre de cette noyée prend vie dans l'imaginaire du couple et devient ce qui les force à réfléchir ensemble à leur vie et à leur mort, cette noyée-là.
Catherine Verbelli des Hôtels de Radio-Canada qui écrit « C'est très bien réussi, c'est surtout qu'on ressent la présence du fantôme sur scène. » le fantôme qui est Evelyne.
Et oui, mais là, ce qui est vraiment excitant, c'est qu'il y a un changement de distribution. Je ne pouvais pas assurer la présence lors de la tournée de cette pièce. Et donc, c'est la comédienne Rachel Gratton qui incarne maintenant le rôle de cette noyée, de ce fantôme. J'en suis très, très heureuse. Elle est merveilleuse.
Oui. Des émotions donc à fleur de peau à ne pas rater, madame, monsieur. D'ailleurs, nous avons des paires de billets ici que nous offre le Théâtre français de Toronto. C'est prévu, bien sûr, entre le 21 et le 25 janvier seulement ici au Théâtre français de Toronto, au Buckley Street Theatre. Vous nous téléphonez au 86-946-7000. Evelyne de la Chenelière, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire à tous les sceptiques, parce que je trouve que le Théâtre français nous offre des cadeaux, des bijoux incroyables, et vous devez être d'ailleurs très heureuse de voir que votre pièce se balade comme ça à travers la planète et Toronto.
Oui, ben oui, c'est vraiment très c'est un beau destin pour cette pièce.
Justement, on est en plein hiver ici, les gens qui nous écoutent sur internet, eux, là-bas, il fait 36 degrés, me dit-on. Je viens de recevoir un tweet, tant mieux, les chanceux. Mais ici, c'est une belle occasion, je pense, d'aller au théâtre quand il fait froid, c'est en plein hiver, avec un bon petit café ou un petit gin avant, ou un petit verre de vin avant ou après. C'est aussi de se plonger dans une histoire magnifique. C'est un beau voyage.
Oui, oui, et puis le fait que ça se passe au théâtre, donc dans un moment partagé par une collectivité, par un moment de... C'est vraiment le partage de nos expériences à travers un autre angle, un autre regard qui peut vraiment être... renouveler notre regard sur l'amour.
Vous savez, les gens pensent que quand on parle de théâtre en français ici, c'est toujours des gens qui sont très âgés, qui ont une expérience incroyable, tout ça. Or, vous êtes encore très jeune, très belle. D'ailleurs, j'ai envoyé votre biographie à certaines personnes pour montrer que voilà une richesse sûre du Canada français et du Québec.
Mon Dieu, vous êtes bien gentil.
Non, mais c'est vrai. Et vous êtes jeune et vous avez déjà votre actif plusieurs prix, plusieurs pièces de théâtre traduites en plusieurs langues à travers la planète. Est-ce que qu'est-ce qui vous inspire? Et ça, moi, m'impressionne. Votre biographie m'impressionne.
Ben, écoutez, je crois que, tout part d'un besoin. Hein, le besoin d'écrire, à mes yeux, c'est le besoin de créer du sens, ou en tout cas, de créer des morceaux, des parcelles de sens à partir de ce qui nous bouleverse, de ce qui nous dérange, de ce qui nous intrigue. Et je crois que c'est ma façon, c'est la façon que j'ai trouvée pour traverser la vie. c'est en créant...
Et vous tissez des liens finalement avec les événements au fil des années, au fil des mois, au fil du jour. Est-ce que les événements qui se sont déroulés, les attentats à Paris, est-ce que cela vous a affecté?
Oh, complètement, complètement. Pour l'événement en soi et aussi pour les questions fondamentales et très difficiles à résoudre qu'il met au jour.
Parce que dans les pièces de théâtre aussi, des fois, on doit pousser un peu l'enveloppe, on doit provoquer, faire réfléchir, penser aux réalités d'aujourd'hui, et des fois, ça peut être mal interprété. Je pense qu'on parle de l'expression, de la parole, de la presse, et de la liberté d'expression, et puis le théâtre aussi, on peut en être affecté de tout ça.
Oui, vous avez raison, puis la liberté d'expression et de création...
Voilà.
Marche un peu main dans la main. Mm-hmm. Non, marche tout à fait main dans la main. Cela dit, enfin, chacun a sa façon de vivre et de ressentir et ensuite de rebondir sur des événements aussi importants que ceux que vous mentionnez. Pour ma part, je sais que je me sens très affectée par toute l'époque contemporaine qui est la mienne. Mais j'ai pas un rapport éditorial à l'écriture. J'ai vraiment un rapport poétique fictionnel. Donc parfois c'est pas évident au premier coup d'œil comment je me positionne, par exemple politiquement. Et pourtant, je considère que mon écriture est très 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 engagée.
Exactement, exactement. Alors un scoop. Est-ce que vous travaillez actuellement sur une pièce? qui n'est pas annoncé, connu encore du grand public.
Oui, c'est le cas. Je travaille sur une pièce qui est très importante pour moi, ouais. Que je retrouve mon collaborateur, très privilégié. Enfin, c'est moi qui est privilégié dans notre histoire, d'après moi. Je retrouve Daniel Brière à la mise en scène de notre prochaine création en septembre prochain au Nouveau Théâtre Expérimental.
Une vie pour deux, madame, monsieur, à ne pas rater la chair ou les autres fragments de l'amour. Et bien sûr, cela sera joué au théâtre Street Theatre, Berkeley Street Theatre, théâtre français de Toronto, du 21 au 25 à janvier seulement. Nous avons une paire de billets. Nous remercions notre invité du jour, c'est Evelyne de la Chenelière, auteur et récipiendaire du prix du gouverneur général, mais aussi d'autres prix. Hein.
Je vous remercie de m'avoir reçu, je vous remercie de votre intérêt.
J'espère qu'un jour on aura l'occasion de vous rencontrer, soit à Montréal ou soit à Toronto. Venez nous rendre visite.
Avec plaisir.
Passez une bonne journée, au revoir.
Merci, merci beaucoup.
Les succès de la francophonie. Écoutez bien. En direct de Montréal sur CUT FM Toronto.
Hey Lily, je vois bien que tu vis des heures folles. T'es là perdu sans boussole. Je suis bien inquiet pour toi. Tu sais Lily, quand la vie te trahit, une histoire te brosse et que ton cœur se casse, c'est correct de pleurer. Mais n'oublie pas que t'as toujours en banque quelques jours de chance et un peu d'espérance. C'est juste une passe. Faut pas perdre patience, je te jure, fais-moi confiance, on va s'en sortir ensemble. C'est vrai, tout finit par s'user, nos habits, nos maisons, nos amours, la gloire des premiers jours. C'est vrai aussi. Y'a des coups qu'on voit pas venir, qui nous font douter de l'avenir, qui nous donnent juste envie de fuir.
Les nouveautés de la francophonie avec Vincent Vallière. Lily, ça vient de sortir, madame, monsieur, et c'est parmi les top 10 de Montréal sur CUT 89,5 FM Toronto. Rapidement, je vous rappelle, madame, monsieur, que Oasis Centre des Femmes vous invite à une activité assez intéressante, surtout pour les femmes. C'est un projet qui s'appelle Tremplin, qui aura lieu le vendredi 30 janvier à partir de 15h. La présentation s'adresse aux femmes à partir de 16 ans, désireuses d'en faire plus sur les programmes que vous propose justement Oasis Centre des Femmes dans le cadre du lancement d'entreprise et d'accompagnement à la demande de financement. Si vous avez une idée d'entreprise, si vous voulez postuler ou propulser plutôt vos affaires, allez-y, c'est une très belle rencontre. La date, encore une fois, je vous rappelle, c'est le 30 janvier à partir de 15h. Vous pouvez téléphoner à Maggie Anelka et son numéro de téléphone est le 416-591-6565 ou vous allez sur le site de www.oasiscentredesfemmes.org pour tout savoir. Quatre Français de Toronto présentent l'immense hit Midsummer, une pièce de 9 chansons par le théâtre de la Manufacture de Montréal. Ça s'annonce très intéressant. On en parle parce qu'on a encore un peu de temps. Je pense que c'est prévu entre le 25 janvier au 1er mars 2015. Il y a plusieurs grandes pointures dans cette pièce. On en parle peut-être avec Guy Mignot prochainement. Attentat à Paris pour un réarmement intellectuel. C'est un un article très intéressant à lire absolument dans le journal Le Point de cette semaine. Pour panser ses plaies, la France doit d'abord les panser sans angélisme ni radicalisme, mais avec lucidité et d'ouverture d'esprit. Côté cinéma, cette semaine, c'était la liste des nominations aux Oscars 2015 qui a été dévoilée. Rosamund Pike, Steve Carell, Bradley Cooper, Simon, et qui affrontent certains des favoris des critiques comme Julianne Moore, Michael Keaton, Benedict Cumberbatch et Ethan Hawke lors des Oscars 2015. Je vous rappelle que cela se déroulera le grand jour, 87e cérémonie des Oscars se tiendra le 22 février prochain. Et si cela vous intéresse, vous allez sur notre site cette semaine, on mettra là toutes les informations. Et le 13 mars 2015, à ne pas rater, madame, monsieur, on célèbre bien sûr tout au long du mois de mars le mois de la francophonie, mais Couleur Tropicale, notre partenaire RFI Claudie Sillard et tous ses camarades, eh ben, ils iront fêter, tenez-vous bien, leur 20e anniversaire, Couleur Tropicale, sur RFI, mais bien sûr en Haïti, me dit-on. Et oui, à l'occasion de ce 20e anniversaire, Claudie et son équipe organisent une caravane dans une dizaine de villes d'Afrique et d'Haïti, une tournée qui permettra d'aller à la rencontre des auditeurs, des auditrices, de promouvoir au mieux les musiques de chaque pays, et qui sait, peut-être bientôt à Toronto. CUT 89,5 FM.
En une nuit blanche, une danse de tract, que personne ne flanche, un peuple qui craque, en une nuit franche, une danse d'attaque. On passe à l'attaque, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action. Mieux vaut tard que jamais, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action. Aussi longue est la nuit, le jour fera son apparition. On passe à l'attaque d'accord et c'est tout le pays qui s'affole. On ferme les écoles, on sort les pancartes et les banderoles. Partout dans la ville, il y a dans l'air de l'excitation. La place de la nation deviendra place de la révolution. On passe à l'attaque mort aux vaches et aux tyrans d'abord. Aux ennemis du peuple, à la bourgeoisie comprador. On sait ce qu'on veut, allez leur dire que vivre en révolutionnaire, c'est mourir en révolutionnaire, les armes à la main. On passe à l'attaque camarade, mais pourquoi donc attendre encore? Soyons réalistes et demandons-leur l'impossible. À part la société spectaculaire et marchande, le droit de vivre, certes, ne se mendie pas, mais se prend. Et c'est une foule multicolore qui se déplace enthousiaste à l'idée que la menace a changé de camp et de place. Et c'est une foule décidée qui réclame et qui gueule. CRS-16, prends le pavé dans ta gueule. On passe à l'attaque, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action. Mieux vaut tard que jamais, on passe à l'action. On passe à l'attaque, on passe à l'action.
Et voilà, messieurs, beaucoup de créations depuis justement les attentats à Paris, une semaine après l'attaque et a coûté la vie à plusieurs journalistes de Charlie Hebdo. Le dernier numéro du journal va être réimprimé, je vous rappelle, 7 millions d'exemplaires, mais il y a aussi beaucoup de pays musulmans qui ne sont pas très heureux des apparitions de Charlie Hebdo, le nouveau Charlie Hebdo, dans leurs kiosques à journaux. Il y a eu des attaques, on a attaqué des églises catholiques aussi, mais aussi des restaurants, plusieurs entreprises françaises dans certains pays d'Afrique ont été, surtout au Nigeria et aussi au Pakistan, ont été attaqué. Alors, voilà ce qui se passe. On va suivre l'actualité de très près cette semaine. Cela vous intéresse d'être des nôtres, vous nous envoyez un courriel cette semaine avec vos activités communautaires, culturelles ou autres. Je remercie beaucoup tous ceux et celles qui m'ont aidé à préparer cette émission, surtout pour l'opération d'Haïti, là, 5 ans après. J'ai reçu pas mal, madame Janine Maillard d'ailleurs, de FCASO et aussi tant d'autres qui nous ont permis à trouver les bonnes porte-paroles, les bons candidats pour l'émission d'aujourd'hui, et bien sûr tous nos collègues Radio France International en Haïti, à Paris. Merci à Fougère Adolphe, merci à Evelyne de la Chenonnière, merci au DJ de Vera, le journal L'Express de Toronto et RFI Musique. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain. À ne pas rater, madame, monsieur, tout le mois de mars, nous allons monter les opérations sur la langue française, le mois de la francophonie à travers la planète, dans toutes ses couleurs, tous ses accents. Soyez-y, si vous voulez être un partenaire ou commanditaire, vous nous envoyez un message à pot.pourri@sympatico.ca. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Ici Eric Tader, je vous dis ciao.